Vous écoutez
RMC.
RMC.
32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. Allez, j'ai perdu.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Fabinho qui est moins la lance de lancement. La rampe de lancement.
Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un con. Voilà, je suis un con. Cristiano a marqué.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamard.
Génération After avec une bande de dingos un petit peu quand même. Fred Hermel, Julien Laurence.
C'est vrai, j'avais la honte.
Paulo Breitner et Johan Crochet. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Carlo Ancelotti a poussé un petit coup de gueule en conférence de presse pour la victoire du Real à Bilbao. Respectez Vinicius. J'entends trop d'insultes sur ce joueur. Non, évidemment, j'ai pensé à toi, mon cher Fred.
Non, le problème, c'est pas les insultes, c'est les coups de pied qui se prend, quoi.
Oui, enfin, il a dit des supporters adverses qui l'insultent, les adversaires qui mettent des coups.
Mais c'est les coups qui se prend, c'est dingue. Et franchement, et lui, il est encore jeune.
Est-ce qu'on mérite pas un peu parfois sur un terrain quand on prend des coups?
Le mec, il est dribble, il est très fort, il est dribble. Donc, les mecs, ils se font avoir. Parce que c'est vrai que, non, mais quand t'es joueur de foot, t'es défenseur, t'as Vinicius qui te fait un grand pont ou qui fait un petit pont, ouais, tu te sens pas bien, ouais. C'est vrai qu'il est. Il a un jeu qui énerve.
On avait les mêmes débats avec Neymar au Barça.
Ouais.
Il prenait des coups sans arrêt et on se disait, est-ce que c'est normal, pas normal? Enfin, moi, je trouve que. Là, t'es un mec parce qu'il est bon techniquement.
Mais non, bien sûr. Polo, t'as un exemple en Bundesliga, dans l'histoire de Bundesliga, d'un joueur qui prenait des coups, qui agacé parce qu'il était techniquement.
Rester sur l'Espagne, enfin, aujourd'hui, on se plaint qu'il se prend des coups, mais regardez ce que se prenait Maradona dans les années 80.
C'est la rigolade.
Aujourd'hui, les mecs, il se prend un coup, le mec, il est mort, quoi.
Bah, avec Coco Cheas, ce qu'il avait fait.
Comparer ce qui se passait dans les années 80, ça n'a rien à voir. En ce moment, bah ouais, il y a pas mal de joueurs qui s'en prennent, bah, Moussiala, par exemple. Il s'en prend beaucoup, même si c'est souvent assez large en ce moment, les marquages. Mais voilà, c'est un cas particulier. Ouais.
Avant d'ouvrir le dossier Juve, hein, qui est le dossier de la semaine, voire de la saison, les 15 points de pénalité pour la Juve, les tours par la Coupe de France, à Bollard, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain, Jeannot Rességuier.
Et le quart d'heure de jeu, toujours ce score de 0-0 pour l'instant. Etienne, les joueurs de Régional 1, les amateurs de Pays de Cassel face au Paris Saint-Germain. Deux situations, au-delà du but refusé logiquement pour position d'hors-jeu à Kylian Mbappé avec Soler, encore une fois pied gauche là, qui ouvre ce ballon par complètement en dehors des limites du terrain, alors qu'il avait Neymar tout seul pour l'instant dans ses choix. Soler, c'est un petit peu compliqué, et pour les joueurs de Pays de Cassel, ils essayent, en tout cas quand ils ont le ballon, ils l'ont pas souvent, mais quand ils l'ont, ils essayent de l'exploiter avec un joli petit technicien qui s'appelle Leclerc, qui est au milieu de terrain et qui régale là depuis tout à l'heure et qui essaye de remonter le ballon là, comme le fait à l'instant même Collet, pour aller chercher dans le couloir Boudjema. On revient encore dans l'axe avec le Ganas. Là, ils sont venus dans la moitié de terrain des Parisiens. C'est rare, autant le souligner, avec Leclerc. Et là, pour l'instant, au niveau des lignes, ça s'est resserré. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça ne va pas être simple, mais ça, on le savait déjà. 16 minutes de jeu et pour l'instant, 0-0, alors qu'il y a un joueur au sol. C'est Brunel qui s'est fait mal sur l'action précédente, qui a pris un coup sur un duel. L'un des rares joueurs à avoir évolué au-dessus du National 2, puisqu'il a joué 24 matchs en Ligue 2 avec Dunkerque et 43 matchs en National. Il a été puni, sanctionné récemment dans l'affaire des paris. Il avait été suspendu pendant deux matchs. Il n'avait pas pu jouer le tour précédent face à Wascal. Ce soir, il attendait avec impatience de retrouver une équipe professionnelle. C'est le cas. En tout cas, il est titulaire. Ça va mieux pour lui. 0-0, 16 minutes de jeu à Bollard.
Stupeur en Italie. La Cour d'appel de la Fédération italienne de football a donc infligé à la Juve un retrait de 15 points vendredi, rétrogradé de la 3e à la 11e place de Serie A, à 14 points de la Ligue des Champions. Johan, tu vas nous dire dans un instant comment on réagit en Italie. Bien sûr, Fred, Polo et Julien, n'hésitez pas aussi, hein, c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui va peut-être nous intéresser dans les prochaines semaines, sait-on jamais également, même si ça semble être une spécificité italienne. D'abord, Johan, comment l'Italie a réagi? C'est une déflagration vendredi soir quand ça sort.
Oui, une déflagration. Après, parce que la sanction est énorme. Je veux dire, 15 points en moins, on n'est pas en train de parler de 2 ou 3 points pour une fraude quelconque. Voilà. On est en train de parler de... T'enlèves quasiment la moitié des points d'une équipe. Donc forcément, c'est très impactant. Après, moi, ça me fait marrer parce que le système des plus-values, ça fait des années qu'on en parle, etc. Et que là, d'un seul coup, tout le monde se dit « Ah ouais, mince, c'est problématique, les plus-values. »
Rappelle-nous concrètement, en quelques mots, de manière très claire, c'est pas évident.
Oui, non, mais si, c'est assez simple, en fait. Là, on va parler juste du système. Les plus-values, on les appelle les plus-values artificielles en Italie, parce qu'on estime que les valeurs des joueurs sont gonflées. Je vais vous passer tout le côté économique de quand on recrute un joueur, on peut amortir le montant du transfert et du salaire sur les années de contrat.
Lisser
les salaires et le montant du transfert. Et puis, à l'inverse, quand on vend, tout vient sur le bilan en cours. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous vendez un joueur 60 millions d'euros, sur le bilan en cours de l'année, de la saison, si ça termine au 30 juin, vous avez 60 millions. Donc ça, c'est très, très facile à comprendre. Ce système-là, en Italie, il y a un vrai problème, mais il vient pas de nulle part, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Italie a raté sa mue économique. Parce qu'en Italie, pendant des années, des dizaines d'années, je vais pas remonter forcément hyper loin, mais on va années 80, 90, 2000, c'était le football des familles. On l'appelle le football des familles. Pourquoi le football des familles? Parce que c'était des familles italiennes très riches qui étaient à la tête des clubs. La famille Moratti à l'Inter, les Berlusconi à Milan, les Sensi à Rome, évidemment
Agnelli à Juve,
il y a à Turin, mais il y avait aussi les Cragnotti, etc., etc. Et ces gens-là étaient forcément très riches. D'ailleurs, ils venaient souvent des industries ou de l'économie, du pétrole et des médias, deux choses qui dans les années 90 ont explosé et qui ont ramené beaucoup 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 d'argent. Et donc ils avaient beaucoup d'argent. Et en fait, ils avaient pris un club parce qu'ils souvent ils étaient supporters de ce club-là. Et puis c'était un peu leur danseuse. Voilà, ils injectaient beaucoup d'argent parce que ça leur faisait plaisir, ça leur créait leur petite dose de testostérone le week-end, d'adrénaline le week-end pour les matchs. En même temps, ils avaient les supporters qui étaient super contents parce qu'ils injectaient de l'argent, des super joueurs qui arrivaient. On prenait les meilleurs Brésiliens, les meilleurs Argentins, les meilleurs Italiens, etc., etc. Et puis on s'intéresse pas trop aux rentrées d'argent parce qu'il y avait tellement d'argent que franchement, s'ils réussissaient à faire des contrats de sponsoring ou des droits commerciaux ou vendre des loges,
puis,
ou
tout ça, les footballeurs étaient moins chers aussi.
Oui, ils étaient moins. Ouais, mais enfin c'est pareil, l'économie de l'époque, quand tu la compares, enfin c'est difficile de comparer simplement les prix de transfert, alors que l'économie était très différente aussi à l'époque. Exactement. Je pense que si tu fais le ratio, on doit pas être si loin quand même entre les deux périodes. Et donc, ça, c'était le football des familles, parce qu'à l'époque, l'économie italienne, ça allait à peu près, et il y avait des gens très fortunés. Puis au milieu des années 2000, l'économie italienne, mais on peut même dire l'économie européenne, un peu partout, se casse un peu la figure, et les familles, elles commencent un peu à tirer la langue. Donc elles dépensent beaucoup d'argent, puis ils commencent à se dire,
pas de rentrée,
il nous coûte cher ce club quand même. Donc là, on commence à voir les premiers signes très inquiétants. Au début des années 2000, la faillite de la Lazio, la faillite de Parme, la faillite de la Fiorentina. On commence à se dire, c'est pas des petits clubs en plus, c'est pas Vicenza ou des petits clubs comme ça. Donc on se dit bon. Et puis après, on commence à voir la Roma. Ah là, la Roma quand même, la Lazio plus la Roma, les deux clubs romains. La Roma obligée d'être récupérée par la banque qui faisait crédit à la famille Sensi, qui était dans le pétrole. Sauf qu'au milieu des années 2000, le pétrole, ça commence à se casser la figure. En tout cas pour les Européens, je parle pas des gisements à droite à gauche, mais pour les entreprises européennes, c'est un peu plus compliqué. Et donc ils avaient moins d'argent. Et puis là, ils se sont dit, on n'a pas de rentrée d'argent, on dépense beaucoup. Comment on fait? Ils se sont dit, on va arrêter de dépenser. Ils se sont pas dit, on va faire rentrer de l'argent. Ils se sont dit, on va arrêter de dépenser. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de clubs ont commencé à être vendus aux alentours des années 2010, etc., etc. Et puis il y a deux choses qui sont arrivées. La première, c'est que la fédération a commencé à mettre des mécanismes en place pour quand même réguler un petit peu plus les choses, avec le fameux indice de liquidité qui permet de savoir si t'es solvable à la fin de la saison, prévoir en tout cas que tu sois solvable jusqu'à la fin de la saison, même si c'est un peu une farce, très sincèrement, parce que à chaque fois que les clubs gueulent, ils baissent l'indice de liquidité, donc comme ça, le pouvoir des clubs en Italie sur la fédération et la ligue, c'est indécent. Et puis la deuxième chose, c'est l'instauration du fair play financier pour les clubs européens, les gros clubs, puisque là on va parler essentiellement de gros clubs. Et quand le fair play financier est arrivé, il a fallu regarder du côté des déficits. On s'est dit, oulalalala, quand on perd 200, 300 millions d'euros par an, là, on pourra plus trop le faire.
De l'Inter, notamment, la Juve.
L'Inter, le Milan, la Juve, la Roma, la Lazio, tous, quoi. Et ils se sont dit, comment on va faire? Alors, ils se sont dit, on va peut-être accentuer une chose. Il faut se souvenir que depuis des années et des années, déjà dans les années 90, etc., il y a un système qui s'appelait le système de copropriété. C'est un système seulement en Italie, évidemment, parce qu'on est toujours bon pour inventer des nouveaux business dans le foot en Italie, où on pouvait détenir un joueur à 50% à parts égales entre deux clubs. On disait, ce joueur-là, je te le vends 50% pour 2 millions d'euros. Et puis le système voulait que ça durait un an ou deux ans. On définissait un accord comme ça, 50% un an ou deux ans. Et à la fin de la période, vous trouviez un accord. Moi, je te propose 2 millions pour acheter les 50%, je te propose 10 millions, peu importe, etc. Si tu ne trouvais pas d'accord, il y avait le système des enveloppes. En plus, dans le show, c'est génial. En Italie, on a toujours le truc du show, etc. On disait, écoutez, vous allez prendre un morceau de papier. Chacun, vous allez mettre ce que vous êtes prêt à payer pour les 50% de l'autre. On va mettre dans une enveloppe à l'aveugle. Et puis, on va ouvrir les grandes enveloppes. Puis, on va trouver le gagnant. Genre, le juste prix, quoi. Et des fois, ça jouait à 1000 euros. Je vais vous donner un exemple. Matteo Politano, qui est aujourd'hui à Naples. La Roma avait vendu 50% à Pescara. Puis, au bout de deux ans, on fait quoi de Politano? Pas d'accord. Pescara, ils disent, bon, ben, nous, on est prêt à mettre 600 000 euros pour acheter les 50% de la Roma. La Roma, ils disent, ben, nous, on est prêt à mettre 601 000 euros pour acheter les 50% de Pescara. Donc, pour 1 000 euros, Politano est revenu à la Roma. Et ce système-là permettait toutes les magouilles hallucinantes, parce que, pour équilibrer un bilan financier, il fallait des rentrées d'argent. Pour les rentrées d'argent, on disait, bah, tiens, les 10 jeunes, là, bon, on va mettre 2 millions d'euros, on va les vendre chacun 2 millions d'euros pour 50%, hop, 20 millions d'euros de gagné. Sans rien faire. Tu fais quasiment rien. Ton joueur, il t'appartient encore à 50%. Puis tu, là, c'est quand on faisait 20 à 2 millions d'euros, mais tu pouvais en faire 40 à 5 millions d'euros. J'exagère volontairement, je grossis le trait, hein. Mais ça permettait de faire rentrer beaucoup d'argent. Et le système des plus-values, ça vient de là. C'est qu'en 2015, ils ont arrêté ce système de copropriété parce que la fédération, c'était autorisé par la fédération dans les règlements. La fédération s'est quand même dit, bon, ça, il commence à y avoir un peu trop de magouilles, là, ça commence à se voir, là. Quand il y a 100 joueurs sous contrat, dont 50 qui sont en copropriété, ça commence un peu trop à se voir. Je rappelle que Parme a une deuxième fois fait faillite, ils avaient plus de 200 joueurs sous contrat. Petit exemple au passage, 200 joueurs du florilège en Italie. Et donc ils se sont dit, bah, comment on va faire rentrer de l'argent maintenant. Et donc là ils se sont dit, bah, on va être un peu créatif. Les premiers options avec obligation d'achat, ou prêt avec prêt pendant 2 ans avec obligation d'achat derrière, ou les ventes mais derrière avec la recompra, comme on dit chez toi, je pense sans doute très très mal, mais le rachat derrière, la clause de rachat derrière. Tout ça, les premières sont venues en Italie. On vend un joueur 20 millions, puis on se dit, on met une clause de rachat à 18. Comme ça, vous prenez déjà les 20 millions d'euros sur votre exercice. Puis au pire, si vous le rachetez 18 dans un an, bah, avec les 50 contrats que vous allez lui donner sur l'amortissement, tout bénef pour vous, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que l'Italie a mis le doigt dans un engrenage qui est infernal.
Il n'a pas réussi à en sortir. Parce que
clairement pas, parce que plus tu fais venir de joueurs, plus tu essayes de faire ce système-là, sauf qu'après, tes amortissements, ça grossit.
Ouais, ça grossit, un peu les subprimes aux États-Unis en 2007.
Exactement.
C'est ça, quoi. On va développer sur les conséquences surtout, hein,
la Juve
et d'autres clubs pourraient être impactés et pas les moindres en Italie, les gars. Puis votre avis également, Polo, Julien et Fred là-dessus, si vous en avez un, bien sûr. Hein.
Ouais, parce que moi c'est Barça qui a fait un truc comme ça avec la Juve, avec Pjanic et Arthur.
Oui,
plus des jeunes aussi.
Même des clubs français qui ont eu des transactions récentes avec la Juve. On pourra en parler aussi. La Coupe de France, Jeannot Rességui, Abollard, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
Avec une faute à l'instant même là de Neymar sur Boudjema à l'entrée de la surface de réparation de Pays de Cassel. C'est un ballon qui va être rendu aux amateurs de Régional 1. Neymar, je vous en parle parce qu'il y a eu, on va dire, une bonne minute où les Parisiens ont joué à 10 contre 11. Et d'ailleurs, là, ils ont un peu profité, les joueurs de Pays de Cassel, en régalant et en essayant d'être dangereux par l'intermédiaire de Koné et de Le Gallet. Garbi est à l'échauffement. Il y a un petit souci avec le genou droit de Kylian Mbappé, de Neymar, qui est venu pendant un moment discuter avec le docteur Bodo, qui lui-même a fait le rapport derrière à Galtier pour essayer de comprendre ce qu'il a. Il a ressenti une douleur. La pelouse n'est pas géniale. Elle est abîmée à Bollard. On l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Est-ce que ça vient de là? En tout cas, on l'a vu tout à l'heure sur une tentative de changement d'appui, effectuer un petit test au niveau de son genou droit. Là, il est un peu en dehors du match. Il fait deux fautes consécutives. Ça lui vaut d'ailleurs le premier carton jaune de la partie. Donc à surveiller peut-être l'histoire de genoux pour Neymar. Et toujours 0-0.
Et toujours 0-0 entre Pays de Cassel et le PSG. On fait une pause un instant. On prolonge sur la Juventus. Vos questions également à Johan Crochet. Les conséquences pour la Juve qui n'a pas encore dit adieu à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis tous ces dirigeants, dont Pavel Nedved également, qui sont interdits d'activité dans le football pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. A tout de suite, c'est Génération After spécial Drôle de Dame.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, spécial Drôle de Dame, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h. Il y a un match en Italie, je ne l'ai pas dit pour l'instant, l'Inter, hein, qui peut reprendre la deuxième place de Serie A, qui reçoit Empoli, 0-0 après 30 minutes de jeu. Mais il y a surtout un match de Coupe de France, Jeannot Rességui. Pays de Cassel, PSG, dernier, 16e de finale de la compétition. Le vainqueur affrontera l'Olympique de Marseille.
Et le chrono qui tourne, 28 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Pays de Cassel, club de Régional 1, 6e niveau du football français. Neymar, je vous le disais, avec son petit souci de genou, est revenu dans le match, mais il en est un petit peu sorti avec ce carton jaune qu'il a reçu. On a vu un bon ballon de la part de Leclerc qui sort pour Boudjema et qui veut le mettre dans l'espace sur le Ganaz. Attention avec Mbappé, le premier but à l'instant même à la 28e minute, ça vient de la gauche avec le débordement de Nuno Mendes. Brunel est là, il touche le ballon du bout du crampon sur le plat du pied de Kylian Mbappé. C'est lui qui la touche en dernier. Sur ce geste-là, le gardien Sanson ne peut strictement rien faire. Kylian Mbappé, pour la première fois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, capitaine au coup d'envoi d'une rencontre officielle avec le brassard, il est buteur. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 28e minute pour l'ouverture du score.
À tout à l'heure, Jeannot, 1-0 donc pour le PSG. Vous écoutez Génération After spécial Drôle de Dame. On parle de la Juventus Turin, donc qui a été pénalisée de 15 points. C'est ce que la situation dont avait été frappé le Milan au Calciopoli. Je me rappelle dans le Calciopoli, mon cher Johan. Bon, la Juve, elle avait été rétrogradée en série B avant de remonter la saison suivante. Quelles conséquences pour la Juve? On va en parler dans un instant. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut réagir hors Johan, qui va nous dire les conséquences d'un instant. Fred et Polo aussi peut-être.
Alors moi je vais poser la question à Johan parce qu'il y a une affaire qu'on a bien connue. On l'avait expliqué à l'époque. Hein. Cet échange, ce faux échange entre Pjanic et Arthur. À l'époque, Arthur était joueur du Barça. Pjanic était joueur de la Juve. Le Barça avait payé 60 millions pour que Pjanic vienne au Barça, et la Juve a payé 75 millions pour que Arthur vienne au Barça. On aurait pu dire, tiens, on fait un échange avec 15 millions d'euros. Ben non, justement, c'était ce genre de choses. Alors, est-ce
double
que,
transfert.
Ce double transfert, pour faire ce que tu disais, justement, pour respecter le fair play financier, notamment en Espagne, avec le qui est très, très, très sérieux au niveau de la Liga, ça faisait justement le fait de pouvoir avoir officiellement cette entrée d'argent de 75 millions d'euros et puis les 60 millions de les amortir pour le salaire de enfin pour l'achat de Pjanic. Est-ce que au niveau européen ça peut avoir des conséquences pour ce qui m'intéresse moi,
oui.
C'est-à-dire que le Barça, c'est-à-dire est-ce qu'il se passe en Italie peut intéresser l'UEFA et est-ce que ça peut gêné et porté à conséquence pour des clubs qui ont fait ce genre de business avec les clubs italiens.
Alors, niveau européen, j'ai du mal à voir parce qu'il faudra un règlement. Il faudrait chercher dans les règlements européens si une telle chose existe ou pas.
Coup franc pour le PSG, messieurs, à l'entrée de la surface de réparation. 31e minute, la faute de Brunel sur Neymar, stupide, elle aurait pu être dangereuse, ça lui a valu un carton jaune au milieu de terrain de Pays de Cassel. C'est Paris qui mène 1-0 avec le but de Kylian Mbappé à la 28e minute. La course d'élan très courte de la part de Neymar. On est à 20 mètres face au but, ça passera largement dessus. À la lucarne droite du but de Sanson, on en reste à 1-0 pour le PSG face à l'US Pays de Cassel, club de Régional 1.
Je te laisse répondre, Johan, à Fred.
Oui, donc il faudra voir si la justice espagnole décide de faire quelque chose ou non sur ce transfert-là. Moi, je me souviens, j'avais écrit un papier en 2020 sur ça, sur les plus-values fictives. Et l'UEFA, quand on en interrogeait l'UEFA, disait ben, on s'y intéresse, on regarde ce qu'on peut faire, etc. 3 ans après, il n'y a toujours rien de fait au niveau de l'UEFA. Après, là, il va y avoir une branche sur le cas spécifique de la Juve. L'UEFA a déjà annoncé, c'était je crois juste après la Coupe du Monde, qu'ils allaient étudier le cas, non pas étudier toutes les machins, etc. Juste, ils vont voir si la Juve est sous settlement agreement de avec l'UEFA pour le fair play financier, donc pour rentrer dans les clous des paramètres du fair play financier. Et la Juve a donné des chiffres pour ça. Et donc l'UEFA va juste revérifier les chiffres pour voir s'il n'y a pas eu des chiffres gonflés avec minorer l'accord avec l'UEFA. Oui, c'est ça que regarde l'UEFA pour le moment. En dehors de ça, j'ai du mal à voir parce que même là, pour aller très vite, mais
il y a le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, mouvement à deux entre Kylian Mbappé et Neymar. 32e minute de jeu, le crochet extérieur de Mbappé pour se débarrasser d'un milieu de terrain dans son repli défensif. Le crochet extérieur de Neymar pour se débarrasser de Smijak, le capitaine, et également de Sanson, le gardien qui était venu à sa hauteur. Le ballon est touché par le buste du gardien, mais ça franchit la ligne et 2-0 pour le PSG. 32e minute, vous entendez les sifflets à Bollard parce que le public a pris un petit peu en grippe Neymar. Ouais, Mbappé et Neymar, les deux buteurs parisiens, 2-0 face à l'US Pays de Cassel.
Le geste de Neymar est pas très.
Oui, il a chambré Neymar, tout simplement.
Chambré du club régional. Ouais. Oui, bien.
Vas-y, Johan.
Je sais plus où j'en étais.
Alors, je donne la parole à Polo, justement. Je vais écouter Polo également là-dessus. Ton regard sur la sanction qui frappe la Juve.
Bon, je ne vais pas dire ce que je pense économiquement du foot italien depuis des années.
Si, Polo, mais, tu es là pour ça.
Non, mais moi c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment c'est vu en Allemagne. Est-ce que vous vous rappelez la phrase de l'ancienne chancelière allemande lorsqu'elle parlait de
Angela?
La crise économique, ouais, Angela Merkel, lorsqu'elle parlait de la crise économique en Grèce et qu'elle avait dit les pays du Club Med, quoi. L'image, une fois de plus, de l'Italie en l'occurrence, et parce que l'information est arrivée, a été traitée d'une façon informative, de voir que comment l'Allemagne qui tente, et non avec beaucoup de caricatures d'ailleurs, d'avoir des comptes de résultats pour les clubs à l'équilibre au minimum ou avoir des pertes minimum, l'image est dramatique du football italien en Allemagne. J'ai envie de dire une fois de plus, c'est-à-dire on n'en sort pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la population allemande? Ça veut dire on peut pas leur faire confiance. Parce que je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'histoire en cours. Johan a juste raison, nous dit que Naples en ce moment ça marche bien et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient en Italie de Naples? On retient pas le jeu actuel où s'ils vont battre Francfort en huitième de finale.
Et le troisième but pour le Paris Saint-Germain, c'est la correction là. Et c'est un peu logique face à l'équipe de Régional 1. Il suffisait d'en mettre un pour tout déclencher. 28e minute Mbappé, 33e minute Neymar. Et à l'instant même, 34e, 35e minute, le ballon qui vient de derrière, loin de derrière, de la part de Danilo, qui est en défenseur central avec Sergio Ramos. Le ballon est parfait au-dessus du milieu de terrain et de la défense de l'US Pays de Cassel. Et ça arrive dans la course, juste derrière Zmijak, le capitaine, lui qui est fan du PSG et de Kylian Mbappé. Sauf que Mbappé, lui, récupère le ballon, contrôle, enchaînement, petit lob sur le gardien Sanson. Ça fait 3-0 pour le PSG face à l'US Pays de Cassel.
Et on va directement vers un OMPG au Stade Vélodrome le 7, 8 ou 9 février.
Polo, je voulais juste là-dessus, bien c'est sûr. Que qu'est-ce qu'ont retenu les médias allemands lorsqu'ils expliquent le miracle de Naples, c'est pas le jeu produit, etc. Ils constatent, et ça je parle sous le contrôle de Yann, que c'est l'année dernière 138 millions de pertes. Et ça, en Allemagne, quand tu vois les problèmes actuels du foot européen, sans critiquer telle ou telle personne, tel ou tel pays, etc. Comment veux-tu que les Allemands se disent sur qui peut-on compter pour essayer de faire un football plus équilibré, en supposant évidemment que les Allemands sont plus vertueux que les autres, ce qui est aussi très caricatural. Mais si tu veux, l'image du football italien a toujours été assez dégradée, alors qu'ils battent souvent les Allemands, mais ce genre d'affaires, on dit « ah bah oui, encore ». Donc c'est très compliqué de construire un football européen, de savoir sur qui tu vas t'appuyer lorsque systématiquement tu te retrouves devant ces adversaires. Et on parle de la Juve. La Juve est très appréciée en Allemagne. La Juve, elle serait presque un club allemand, tu vois, par rapport à son histoire, par rapport à différentes choses. Donc c'est compliqué quand même.
Non, mais enfin, l'observation est très juste, Polo. Moi, je peux rien dire d'autre que oui, ça dégrade totalement l'image du football italien et c'est pas fini. Parce que c'est peut-être une chose qu'on peut aborder maintenant, mon cher Nico, c'est les conséquences que ça peut avoir sur d'autres clubs.
On va en parler. On va en parler, mon cher Julien. Je veux également, Julien, comment c'est traité en Angleterre? Est-ce que c'est un sujet chez toi?
Ouais, forcément, hein, ça a été beaucoup commenté, beaucoup analysé, beaucoup étudié aussi parce qu'il y a des ramifications, par exemple, à Tottenham, puisque Fabio Paratici, qui était l'ancien directeur sportif de la Juve, a été sanctionné, a été suspendu. Cette suspension qui devrait, qui pourrait être élargie à l'UEFA, à la FIFA, donc il pourrait ne plus avoir ce poste-là ici à Tottenham. Donc ça pourrait impacter sur l'avenir d'Antonio Conte. Donc forcément, on en a beaucoup parlé. Après, c'est un problème que les Anglais n'ont pas. Sans faire d'humour ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ont trop d'argent pour mettre en place des mécanismes comme celui-là, en fait. comme Yul l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est pour eux, c'est jamais, ça leur pas vraiment venu à l'esprit, mais on a beaucoup beaucoup parlé effectivement de ce qui est arrivé à la Juve.
C'est vrai qu'il y a aussi Joao Cancelo, un transfert Juve City Danilo, plutôt, et Danilo
ça,
en échange.
C'est pareil, mais
ça c'est un peu différent.
Ouais, c'est un peu différent, et puis même. C'est une notion qui est difficile parce que qui juge de la valeur des joueurs? Ça, c'est une question qui est vraiment très difficile, en fait. Alors, il y a des trucs qui paraissent tellement gros que oui, ça paraît évident. Mais moi, quand on prend le double transfert Danilo-Cancelo. Cancelo, c'est 67 millions d'euros à City. Est-ce que ça vous choque par rapport à Kyle Walker qui était à 60 millions d'euros pour City?
Bien sûr.
Pas spécialement. Et Danilo, c'est 37, je crois, Julien, à la Juve. Un joueur qui vient de City à la Juve, est-ce que ça choque spécialement Danilo 37 non plus?
Non.
Pas forcément. Il y a d'autres transferts qui sont à la Juve et ailleurs, on va y venir, qui sont beaucoup, enfin, qui me paraissent.
Alors vas-y. Quels sont ceux qui te paraissent improbables, en tout cas surévalués, bien sûr?
Alors, évidemment, la Juve s'est fait prendre la main dans le sac et parce qu'ils étaient sur écoute téléphonique et qu'en fait, la justice sportive italienne, il faut distinguer deux choses, la justice sportive et la justice ordinaire. La justice sportive, à travers la Fédération italienne de football, avait dans un premier temps donné rendu un jugement d'acquittement. Et c'est la justice ordinaire qui est revenue vers la justice sportive en disant « Voici tout ce qu'on a en écoute téléphonique, en perquisition, etc. Ça va vous intéresser. » Ce qui pose déjà une première question, c'est quel est l'intérêt de la justice sportive si, en gros, tout leur échappe? Parce que là, sans la justice ordinaire, il n'y a rien.
Quelle est cette légitimité, bien sûr.
Exactement. Ensuite, je n'exclus absolument pas que ce système-là puisse toucher d'autres clubs. Parce que, évidemment, que la Juve, on peut lister tous les transferts, il y en a beaucoup, Et ce qui est reproché aussi à la Juve, c'est l'industrialisation de ce système-là. On a attendu de connaître les motivations de la Cour fédérale qui arriveront dans maintenant 7 ou 8 jours. Il y a des choses qui sortent dans la presse, donc on s'y fie plus ou moins. Ce qui est reproché, c'est l'industrialisation du système. C'est-à-dire que la Juve a créé un système dont d'autres ont bénéficié. Et en ce sens-là, pour la Cour fédérale, elle doit être plus punie que les autres. En tout cas, pour l'instant, elle est plus punie que n'importe qui, puisque les autres 8 clubs qui étaient sous enquête, ils n'ont rien eu.
Polo parlait du Napoli à l'instant également. Le oui. Napoli pourrait être touché.
Moi, je vais vous dire mon sentiment. Quand vous parlez avec des dirigeants de clubs italiens et que vous parlez avec des agents, des intermédiaires, etc., ils vous disent tous que le transfert de Victor Osimhen à Naples est sans doute l'un des plus crades qu'ils ont eu.
Crade.
Dans cette
salle.
Sale. Parce que, mais ça c'est pas
ouais, de Lille, hein, de provenance de Lille. On est à 80 millions d'euros environ.
Mais ça, je veux dire, j'invente rien. C'est des discussions qu'on a entre nous, etc. Mais tout, c'est à la vue de tout le monde. Hein. Les trois joueurs de Lille, je parle pas de Carnesi, c'est le gardien, parce que gardien remplaçant à Naples, ouais. Ou troisième gardien qui vient troisième gardien à Lille.
Et de ces trois joueurs qui sont partis à Lille, justement.
Alors, ils y sont jamais allés. Hein.
Ils sont jamais allés, on les a jamais vus.
C'est un vrai problème. Ils ont été valorisés comme ces trois jeunes de la Primavera du Napoli, 4 millions, 4 millions et 7 millions. On est sur 15 millions d'euros. Des joueurs qui ne sont jamais allés à Lille. On a envoyé les contrats par fax. Enfin, pas par fax, mais par email maintenant. Pardon, je suis vieux. Maintenant, ils jouent tous au niveau amateur. Sauf un qui est en troisième division italienne. Sinon, c'est quatrième et cinquième division. Deux ans après. Un an après, ils avaient résilié le contrat avec Lille. Ah, 15 millions d'euros. Voilà, comme ça. Ouais. Donc ce transfert-là, moi, il m'intrigue. On verra ce qui se passe. Aujourd'hui, La Repubblica, qui est un quotidien très sérieux en Italie, disait que le procureur de Naples de la justice ordinaire a décidé de prolonger l'enquête autour de ce transfert-là pendant 6 mois pour vraiment vérifier pas mal de choses, etc. On verra. Il y a aussi des doubles... Quand on parle de plus-value artificielle ou de transferts qui peuvent paraître gonflés, bon, il y a des cas dans d'autres clubs. Je prends l'exemple de l'Inter. Quand je vois Van Huysden qui est parti au Standard de Liège pour 12 millions d'euros, qui jouait quasiment pas, qui était un jeune, peut-être un peu en devenir, mais pas trop, qui ensuite revient à l'Inter pour à peu près la même somme. Même chose avec Pinamonti, qui est parti au Genoa. Même chose pour Yunus Radu, qui est parti au Genoa. D'ailleurs, les liens entre l'Inter et le Genoa sur les doubles transferts, il y a des choses à regarder aussi de ce côté-là. Donc, il y a vraiment... Là, évidemment que tout le monde dit la Juve, et puis avec le passif de la Juve, tout le monde dit c'est pas étonnant, la Juve, les tricheurs, machin, etc. On entend ça sans arrêt, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas la Juve, c'est un système du football italien.
Qui a pu profiter à plusieurs clubs italiens et pas des moindres.
Qu'il faut littéralement défoncer, détruire. Ça va coûter cher. Ça coûte déjà cher à la Juve. On verra en attente de l'appel au Comité national olympique italien ce qu'il en sera. Ça coûte cher à des dirigeants. Mais si la Juve a pris 15 points de suspension, 15 points en moins et des suspensions de dirigeants, parce qu'ils estiment que c'est la tête pensante du système, les clubs qui ont fait la même chose, alors peut-être que c'était pas industrialisé autant, peut-être qu'ils doivent prendre 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. J'en sais rien, c'est pas moi qui vais décider.
C'est comme braquer une banque ou braquer un commerce. Tu braques quand même un commerce, tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Donc, c'est pour ça que être impuni, ouais.
En fait, si on dit juste on punit la Juve, et tout sera résolu. Mais non, jamais de la vie. Bon, donc, soit tu t'intéresses au système, soit tu t'intéresses à la tête de gondole du football italien qui a industrialisé un phénomène.
Les gars, on va poursuivre dans un instant, Polo, si tu veux. Tu pourras intervenir sur le sujet également. D'abord, un quatrième but pour le PSG, Jeannot Essegui.
Oui, et un triplé pour Kylian Mbappé avec un super ballon de Danilo tout à l'heure. Par-dessus pour Mbappé. Là, c'est un ballon tout aussi bien distillé par Vitinha dans l'espace. C'est du caviar. Et Mbappé, lui, fait le geste qu'il faut piquer par-dessus le gardien Sanson. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. J'ai envie de vous dire, c'est logique, Paris Saint-Germain face à une équipe de Régional 1 pour ce 16e de finale de Coupe de France.
0-0 entre l'Inter et Empoli en Serie A. A noter que Milan Skriniar, cible prioritaire du PSG, est exclu. Il a pris un carton rouge, il est sorti malgré les contestations, notamment de Lautaro Martinez. On revient dans un instant. Rien ne va plus pour le football italien. On en reparle, Polo, dans un instant également. Tiens, on va faire une petite pause, un petit trou normand, minute. La minute de Julien Laurence. Julien, c'est à toi. Quel choix musical ? Évidemment, magnifique,
c'est bon, ça.
Plus l'histoire.
Voilà.
Le Clash, un thème ça, Polo.
Bien sûr.
Hein.
Ah bah oui. Et j'ai même
bien
entendu
sûr, les Clash.
Ouais, j'ai même entendu. Excuse-moi Julien, j'ai même entendu qu'à Manchester City passait Joy Division quoi.
Ah, magnifique.
Donc ça va quoi.
Ouais. Ouais. C'est vrai.
Alors j'ai choisi les
J'ai choisi les Clash pour London Calling, bien sûr, parce que les clubs londoniens sont invaincus pour l'instant ce week-end. On a Fulham Tottenham en ce moment, donc il y aura peut-être un des deux qui perdra, mais pour l'instant invaincu, dont la victoire de West Ham dans le match de la peur contre Everton hier, au samedi, pardon, 2-0 au London Stadium, un match qui a coûté sa place à Frank Lampard Jr., qui a donc été limogé ce soir, là, qui aurait dû être limogé il y a bien longtemps, hein. Une victoire lors des 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire sur 12 en Première Ligue, c'était bien trop peu pour Lampard, qui avait déjà été viré de Chelsea, rappelez-vous, avant l'arrivée de Thomas Tuchel, qui donc est encore viré là, dans un autre contexte, bien sûr, mais avec des résultats très décevants. Il est arrivé, ils étaient 16e, il les a maintenus la saison dernière, il faut lui reconnaître ça, il part là, ils sont 16e aussi. Ils étaient 16e, ils sont 19e maintenant après la défaite du week-end, mais c'est vrai que ça a été une saison catastrophique pour lui. Je pense que les problèmes d'Everton vont bien plus loin que juste l'entraîneur, que ce soit Frank Lampard ou quelqu'un d'autre. Et on me dit que Marcelo Bielsa serait aujourd'hui l'un des favoris pour prendre. Alors là je signe tout de suite. Hein. Je ne sais pas où il faut signer, mais je signe tout de suite. Si Bielsa devient le pompier de service à Everton dans un bordel, je suis désolé pour le mot, hein, mais c'est un bordel monstrueux, ce club. Donc courage à lui.
Courage à lui. T'as pas vu le visage de Fred Hamel, hein, désabusé.
Non,
Carlo Ancelotti a pris Everton aussi.
Moi, j'en suis ravi.
Ah, moi aussi, je suis content.
Je ne dis rien.
C'est toujours une bonne nouvelle quand Bielsa reprend un club Exactement. Européen, quoi qu'il arrive. Oui, allez, on fait une pause. Oui. On revient dans un instant. 4-0 pour le PSG face au Pays de Cassel. Le PSG qui, pour l'instant, se dirige vers le stade Vélodrome pour un 8e de finale de Coupe de France, donc face à l'Olympique de Marseille. C'est la mi-temps à l'instant. 4-0, on y en reparle dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Fred Hamel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner, on essaie de vous expliquer le plus clairement possible et pour l'instant c'est réussi, Johan. La sanction qui frappe la Juve désormais dans le ventre mou de Serie A, on ne désespère pas, Allegri dit on va prendre match après match, on va essayer de revenir, Ligue des Champions c'est foutu, ça fait les affaires d'autres rivaux en tête de Serie A, à savoir le Milan, l'Inter, notamment la Lazio, la Roma, pourquoi pas, c'est une des conséquences bien sûr. Et puis prochain marché, les transferts, hein, peut-être que certains joueurs vont devoir trouver un autre club, on pense à Di Maria, Milik aussi important, hein, qui est prêté par l'Olympique de Marseille. Il va falloir trouver un point de chute pour lui, peut-être, s'il veut rentrer à Marseille ou aller ailleurs. Mon cher Polo, je te rends la parole. Tu voulais rebondir aux explications de Johan.
Non, mais c'est Johan a très bien expliqué différentes choses. Mais moi, si tu veux, lorsque je fais le constat aujourd'hui du foot italien, j'ai juste envie de poser une question à Johan. C'est quoi l'avenir ? Et avec un gros point d'interrogation, parce que si même, alors que la Juve soit la tête pensante du football italien, ça va pas être la surprise du siècle non plus, mais quand on voit toutes les affaires qu'il y a eu dans l'histoire du football italien, mais là, si tu veux, je me dis c'est quoi? Je me suis dit, bon, arrivée d'investisseurs internationaux qui arrivent, ils vont commencer à nettoyer un petit peu les comptes, parce qu'eux aussi, ils ont racheté quand même une certaine valorisation des clubs, où ils sont rentrés dans les parts, dans le capital des clubs. C'est quoi, à court terme, l'avenir des clubs, où on va être dans une période noire, où la justice italienne va passer et on sait que c'est toujours très dur pour se relever, même si on arrive toujours à négocier. Voilà, c'est quoi l'avenir du foot italien en fait?
C'est difficile parce que déjà il faudra voir jusqu'où mène cette enquête et si elle s'étend à d'autres clubs. Parce que si ça touche beaucoup de clubs du championnat, ton championnat il va avoir des lendemains très compliqués.
Déjà, le CRS en est relevé, hein, en 2007, hein, après le Calciopoli.
Même au niveau image, quoi, réputation, etc. Même si on peut toujours dire qu'elle s'est relevée de ces scandales, etc. Évidemment que l'arrivée de propriétaires étrangers ramène un peu plus de, je vais dire, de vision économico-stratégico-commercialo-sportive.
Ça fait beaucoup, ouais.
Parce que ils veulent structurer les clubs, que c'est beaucoup plus professionnel, que il y a des choses qui, je pense, ne se passeraient pas avec certains propriétaires italiens. Après, il y a toujours une chose, c'est que être propriétaire, c'est une chose. Avoir des hommes en place qui respectent ce qui doit être respecté en est une autre. Ouais. Et pour le moment, il y a des clubs qui ont des propriétaires étrangers qui
mettent en place des dirigeants italiens, par exemple.
Qui ont des dirigeants italiens ou du Serail et qui, alors pas sur des plus-values, mais sur d'autres choses, sont pas hyper clean. Donc, être propriétaire, c'est bien. Amener des gens de confiance et des gens qui sont compétents en est une autre. Donc, pour le moment, c'est difficile de voir l'avenir parce qu'on connaît déjà même pas la fin de ce qui se passe actuellement. Donc, je sais pas quoi te répondre à part que ce ne sera pas le premier scandale, ce ne sera peut-être pas le dernier, malheureusement, que l'Italie s'en est toujours plus ou moins relevée.
À un moment, on dit que le football italien revient sur le devant de la scène, repart sur la scène européenne notamment, structuré, et malheureusement, encore une fois, il va peut-être falloir tout reprendre à zéro, tout assainir dans les prochaines semaines.
La différence, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui ont déjà changé de propriété par rapport aux affaires qui sont en place. Donc, c'est autre chose.
Fred, et après, on reviendra à l'actualité du week-end.
Question un peu naïve à Johan. La Juve, c'est Fiat. La Fiat, c'est des emplois.
C'est Exor. Ouais.
Voilà, c'est des emplois. Mmh. C'est énorme en Italie. Mmh. Est-ce qu'il y a encore, du côté de la Juve, un pouvoir sur les politiques qui pourrait que, finalement, les 15 points soient moins de points?
Peut-être que la Juve a fait appel de la décision.
Alors, attention, ça ne peut pas être moins de points à l'heure actuelle.
Pas possible.
Ce qui est l'équivalent du CNOSF français, le CONI en Italie, ils peuvent faire une chose, enfin deux choses, c'est soit ils confirment les 15 points, ou soit ils annulent complètement la sanction. Okay. Ça ne peut pas être moins. C'est
d'accord.
Tout ou rien. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour la Juve aussi. Il y a une enquête sur les salaires, parce qu'au moment du Covid, il y a eu des reports de salaires qui n'en étaient pas, ou plutôt des annonces de renoncement à des salaires qui en fait n'étaient que des reports et qui n'étaient pas annoncés comme tels dans les bilans financiers transmis notamment, puisque la Juve est cotée en bourse, à la Consol, l'organisme chargé de gérer la bourse italienne.
L'équivalent de la COB en France, ouais.
Et donc, il peut y avoir...
Vas-y, Julien.
Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire le pire finalement, parce que bon, les transferts, ils se sont arrangés. Comme tu l'as dit, c'est dans l'after ensemble samedi soir, il y a d'autres clubs qui l'ont fait et qui seront peut-être aussi punis. Mais c'est qu'à un moment, ils ont menti à leurs actionnaires. Parce qu'en fait, quand tu trafiques un petit peu tes comptes comme ça, entre guillemets, on va utiliser le mot trafiquer pour que tout le monde comprenne bien, et que t'as appris que t'es coté en bourse et que tu as des comptes à rendre à des gens qui détiennent des parts dans ta société ça, c'est peut-être encore plus grave, grave que tout, parce que tout est grave, mais là, t'as quand même franchi une ligne qui était infranchissable, vraiment.
Ouais, et le cas de la Juve est très intéressant parce que coté en bourse, et que c'est pas détenu à 100% par Exor, qu'il y a même un fonds d'investissement qui a une bonne partie de la Juve, et aujourd'hui on parle d'un désengagement parce que ça craint pour eux, quoi. Donc effectivement, il y a encore d'autres choses qui peuvent arriver. Il y a d'autres.
Mais politiquement, il y a plus de la Juve, la famille Agnelli n'a plus de poids sur la politique, non, sur les juges.
Sur les juges, j'irai pas jusque là, mais sur les politiques, attention, parce que ce qui est arrivé en Italie, la vague d'extrême droite, ça a rebattu pas mal de cartes. Des relations entre les dirigeants, les entrepreneurs et les hommes et femmes politiques du pays.
C'est-à-dire que les nouveaux, ils sont pas que chemise avec les clubs.
Non, ça. Et puis j'ai l'impression, par d'autres mesures qui ont été prises ou qu'ils ne voulaient pas prendre, qu'ils ont un peu envie de taper sur le foot, sur d'autres mesures. Donc, en tout cas, c'est pas porte ouverte pour le football. Clairement pas avec le gouvernement.
C'est-à-dire que l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui ne.
C'est pas tout pour le football, c'est comme ça a été parfois le cas avant. Clairement pas.
Bon, voilà pour le dossier Juve, hein, Johan. On en reparlera bien sûr, les évolutions, les éventuelles sanctions qui pourraient évoluer, être changées dans les prochaines semaines, les autres clubs qui pourraient être touchés également, et l'avenir de la Juve sur le moyen terme.
Juste très rapide, très vite. Même avec les relations politiques qui existent, etc., la Juve, mais d'autres clubs, la Juve a fini en série B après Calciopoli. Donc, même avec des relations, s'ils veulent te sanctionner, ils te sanctionnent.
Bon, voilà pour la Juve. Revenons au jeu, au terrain. Parlons d'un triplé, le quatrième de sa saison avec City. Erling Haaland, mon cher Julien, quatrième triplé, 25 buts en 19 matchs. Décisif toutes les 55 minutes en première ligue. Bon, voilà. Je sais pas quoi dire, en fait. On en parle tous les 15 jours à peu près. Et on va en parler pendant 15 ans comme ça. Enfin, 10 ans au moins.
Ouais, il était fâché parce que il était resté 3 matchs sans marquer. Il avait marqué qu'un but sur ses 4 matchs d'avant. Donc, il était fâché, donc voilà ce qu'il fait. Quand il est fâché, une petite crise, Fredo, t'as raison, il en met 3 sur 4 tirs cadrés. C'est juste incroyable, on continue d'en parler. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, 25 buts donc en championnat cette saison après 74 tirs. Par exemple, Sergio Aguero, qui est le recordman de buts dans l'histoire de Manchester City, avait marqué ses 25 premiers buts après 150 tirs. Donc il est en train d'exploser tous les records. Il a déjà plus de buts avec 25 cette saison que tous les meilleurs buteurs des 4 dernières saisons en première ligue. Donc Son et Salah avaient 23 buts la saison d'avant, Kane 23 la saison d'avant, Vardy 23, avant c'était 22 pour le trio Aubameyang, Salah, Mané. Donc rien qu'on est au mois de janvier, il a déjà battu tout ça. Il se rapprochera du record de Salah de 32 buts en première ligue. Je sais pas jusqu'où il pourra aller, mais s'il continue comme ça, il atteindra peut-être les 50 buts. C'est juste incroyable. Voilà, il y a qu'un seul joueur qui a marqué plus que 4 triplés en une une saison de Première Ligue, c'est Alan Shearer en 95-96. Et voilà, Alan, on a marqué 4 en 19 matchs. C'est juste du jamais vu et quelque chose, encore une fois, d'extraordinaire. Même quand il fait rien d'autre quoi dans le match, il est là où il faut quand il faut. Il y a un penalty, il y a un but facile sur une passe de
Mahrez. Penalty, c'est pour lui d'ailleurs. Je me suis dit, est-ce qu'il aurait pu avoir débat pour il avait ouvert le score. Est-ce que De Bruyne n'aurait pas pu le tirer? Non, c'est lui quoi.
Ouais,
il est en mission.
Sinon, Mahrez. C'est Mahrez le tireur. Ouais. Ouais. Mais non, c'est lui.
Ouais, et pourtant, le City va pas être champion.
Ouf, ça, on en reparlera.
Ah, tu sais, ouais.
Non, mais alors, tu peux dire, le City champion de l'an dernier, avec en plus Haaland, c'est pour ça que le football, c'est génial. C'est pas un truc mathématique.
Tout à fait.
Tu dis le City de l'an dernier, champion, tu rajoutes Haaland qui bat tous les records, et pourtant, City n'est pas en position d'être champion.
Arsenal est sorti du chapeau. C'est l'heure de la minute de Polo. Polo Breitner, envoyons la musique.
Ah oui. Ah ouais, je connais ça.
Non, tu connais vraiment.
Il connaît. Ah,
c'est l'un des groupes punk rock historiques de l'Allemagne. C'est les Totenhausen, qui sont d'ailleurs membres du Fortuna Düsseldorf, qui avait sorti donc cette chanson, parce qu'en fait c'est une chanson anti Bayern Munich, en disant il peut m'arriver n'importe quoi dans le monde. En gros, si le Real débarque, si Chelsea le Real, j'y vais, mais jamais, je sais même pas si Dieu existe, etc. Mais je sais une chose, c'est que jamais je ne signerai au Bayern Munich. Lorsqu'il y aura ou Lyonnais ou différentes choses comme ça, je ne me rappelle plus des paroles. Ce week-end, ce dimanche, entre 11h et 13h, dans la fameuse émission Doppelpass dont je vous parle quelques fois, qui faisait ses 30 ans, l'invité, c'était ou Lyonnais. Et il nous a fait sa communication habituelle sur différents sujets. Je vais vous faire rapidement un petit florilège. Harry Kane, c'est un grand joueur, évidemment, mais ça coûte très cher et je ne peux pas imaginer le Bayern pouvoir payer ou qu'il ait envie de payer cette somme-là. Donc, en fait, il envoie un petit message au président du FC Bayern, Oliver Kahn, alors que lui n'a plus de fonction opérationnelle dans le club. Il parle de Choupo-Moting qui doit prolonger absolument, mais il en profite pour mettre un tacle à son agent Roger Wittmann en lui disant mais c'est pas évident de prolonger quand on a Roger Wittmann en face de lui, parce qu'il confond beaucoup les zéros. Il y a différentes choses comme ça où il sort. Il y a sur la prolongation sur l'arrivée de Yann Sommer, par exemple, il dit bon, on va arrêter de parler parce que on a donné de l'argent à Mönchengladbach, ils sont contents, nous on a trouvé une solution, etc. Et en fait on n'a pas fait du social non plus quoi, tu vois. Il y a systématiquement, lorsqu'il sort, des petites baffes à droite à gauche pour les gens qui sont pas contents, etc. Et puis il a actuellement le Francfort est deuxième au classement, et donc le président de Francfort, c'est Axel Hellmann, et il a dit ouais, j'aime bien Axel Hellmann. On lui a dit est-ce que Francfort allait pouvoir embêter le Bayern cette saison, il dit non, mais j'aime bien Axel Hellmann, il est comme moi, il a une grande gueule, donc ça fait du bien au football. Et si tu veux, c'est un personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, moi je sais que je l'adore, mais voilà, c'est comme ça.
Uli Hoeness, Polo, tu restes avec nous, on parlera également d'Amin Adli, hein, qui a brillé ce week-end aussi. Daniel Riolo est de retour, il sera là dans quelques secondes avec nous pour poser des questions aux drôles de dames, notamment parler d'Antoine Griezmann qui a été brillant et confirme son retour en grande forme. C'est Génération After spécial drôles de dames, 4-0 pour le PSG, vous le savez, face au Pays de Cassel en Coupe de France, et 0-0 entre l'Inter et Empoli. On revient dans quelques secondes sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec Polo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Johan Crochet. 4-0 pour le PSG à la mi-temps face à Pays de Cassel en Coupe de France. 0-0 entre l'Inter et Empoli, c'est la mi-temps. 0-0 entre Fulham en Première Ligue et Tottenham après 30 minutes de jeu en Espagne, mon cher Fredo. Valence, 0-0 face à Almeria. Un bon ventre mou, ça, Valence Almeria.
Ah, 13e
contre le 14e. J'accueille Daniel Riolo. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, les amis.
Daniel, évidemment, tu l'as entendu peut-être en venant. On a beaucoup parlé de la Juve.
Ouais, donc on n'en reparle pas.
On n'en reparle pas, voilà, exactement. C'est le sens de mon propos. Vers qui te tournes-tu pour une première question?
Le futur champion.
Hein, allons-y.
Le futur champion. Johan, le pays se fait à l'idée. Parce que comme ces dernières années, alors peut-être pas les deux dernières, mais si on remonte un petit peu avant.
Paris.
Plein de fois, on s'était dit que ça allait peut-être être la bonne, parce que peut-être on se rend pas bien compte vu de France, mais c'est un club qui n'a été que deux fois champion, mine de rien. C'est pas grand chose. C'est un club dont on parle beaucoup parce qu'il y a plein de légendes autour, le public, Maradona, machin. Mais c'est que deux titres. Ouais. Le football en Italie, on l'oublie peut-être trop, mais c'est monopolisé par les trois clubs du Nord depuis toujours, historiquement. Donc ce sont des exceptions quand c'est pas un de ces trois-là qui est champion. Est-ce que d'abord le pays se fait à l'idée et se dit maintenant les points d'avance c'est bon, cette fois c'est bon, et surtout est-ce qu'on aime ça? Parce que c'est pas un club qui est aimé partout, faut bien le dire. Est-ce que, je sais pas, on félicite le jeu, on dit c'est l'équipe qui est la plus séduisante, un petit peu comme on dit en France aujourd'hui qu'on kiffe voir jouer Marseille et Lens, par exemple. Est-ce que ça se dit, ça?
Ça se dit clairement, parce que sincèrement, il est difficile de passer à côté, quoi. Quand tu regardes les matchs du Napoli, il y a une telle domination par le jeu, il y a un tel enthousiasme qui est déclenché par cette équipe quand tu la vois jouer sur le terrain, parce que il y a le championnat, Daniel, mais il y a aussi ce qui s'est passé en Ligue des Champions qui a été encore plus impactant. La raclée mise à Liverpool, à l'Ajax. Tout ça a vraiment cimenté cette impression de domination totale sur le football italien de manière générale, et même le football italien en Coupe d'Europe actuellement. Donc ça, évidemment, alors tu vas jamais demander à un Juventino de dire que Naples joue bien et que Naples sera un beau champion, c'est difficile. Même à Rome, le problème, c'est que le campanilisme est très, très, très développé en Italie, et donc tu trouveras toujours des gens qui n'aiment pas Naples et ce sera très compliqué. Mais les gens qui sont à peu près neutres ou même dans la sphère médiatique, parce que tout le monde ne peut pas s'afficher.
Je visais, moi.
Voilà, il y a quand même clairement un état de fait aujourd'hui de dire que Naples joue très bien, Naples mérite totalement.
C'est la meilleure équipe, ça joue mieux.
Et en plus, ils ont réduit la masse salariale, ils ont recruté intelligemment. On va mettre de côté le transfert d'Osimhen dont on a beaucoup parlé. Mais en dehors de ça, ça a pas mal recruté. Ils ont baissé. Ça prouve aussi.
Ça permet à De Laurentiis de faire des sorties pour donner des leçons à tout le monde et se venger un
exactement.
Peu.
Exactement. Et ça montre aussi un peu comme le Milan la saison dernière. C'est que aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être le club qui a la plus grosse masse salariale en Italie, le club qui dépense le plus pour être compétitif. Et donc ça, forcément, c'est appréciable, même si on connaît, en Italie, ça peut très vite changer. Mais l'idée est claire aujourd'hui. Là, on voit encore l'Inter qui galère contre Empoli. Le problème, c'est pas tant le niveau. Enfin, le problème, c'est que pour les autres clubs, c'est pas tant qu'ils font une mauvaise saison. L'Inter, le Milan, ils font pas une mauvaise saison. Même la Juve, avant les 15 points de moins, vous savez ce que je pense du jeu d'Allegri. On pouvait pas dire qu'en termes de résultats, ils faisaient une mauvaise saison en championnat. Le problème, c'est qu'ils ont des extraterrestres devant.
Daniel, une question encore. Et puis, tiens, Polo aussi, vous nous parlez d'Amin Adli, ça t'intéresse?
Ouais, je pose une question à Fredo, puis après, il parle de ce qu'il veut, Polo.
Vas-y, Fredo.
Oui, merci.
Fredo, bon, vous en avez parlé de Vinicius, mais je trouve que l'ambiance autour de ce joueur, moi, elle est un peu folle. Il se fait siffler partout, il est pas vraiment aimé et tout. Mais comme t'en as déjà parlé, allez, soyons positifs, parle-nous de Griezmann. Alors, il y a ceux qui sont rentrés de la Coupe du Monde, fatigués, à côté de leur pompe, pas bien et tout. Lui, la Coupe du Monde, bon, à part la finale où il a été mauvais, il a été bon à la Coupe du Monde, il revient et c'est le patron de l'Atlético, club où il était plutôt un peu sur la fin, voire tricard. Gros renversement de tendance quand même.
Il s'est remis de ces deux années, de ces deux saisons à Barcelone, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le match contre Valladolid, c'est un but de base décisive. Que tu le mettes deuxième attaquant ou co-attaquant, ou que tu le mettes comme le match à Valladolid un peu plus derrière avec Correa et Morata devant, il pèse partout. C'est-à-dire il pèse offensivement, il pèse défensivement. Donc la question, en ce moment, on peut dire que c'est l'un des trois meilleurs joueurs du championnat espagnol, quoi, sans aucun doute, quoi. Enfin,
carrément.
Ah ouais, faut voir les matchs.
Ça, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié.
Il a été avant.
Simeone avait arrêté d'être gentil avec lui.
Bien sûr.
Un peu violent,
faut pas oublier. Alors après, sur la fatigue, il y a un truc aussi. Il faut pas oublier qu'il a joué
qu'une demi-heure par match.
Parce qu'il jouait qu'une demi-heure à cause de ce fameux
clause,
etc. Qui a été réglé juste avant le mondial. Donc, il arrivait, moi, on s'inquiétait un peu en disant, il a pas assez joué avant le mondial. Bon, finalement, comme il avait joué quelques matchs, finalement, suite à l'accord entre l'Atlético et le Barça. La question a été posée à Griezmann après le match contre Valladolid en disant est-ce que c'est ton meilleur niveau? Il dit je suis pas encore mais presque. Lui-même sent que, puis il est heureux, enfin c'est
comme quoi l'état d'esprit, le mental.
Et puis là, le club tu joues,
c'est son club.
C'est son club,
il est chez lui, dans sa ville.
Il avait été
commenté la NFL hier pour une chaîne Movistar.
Bien sûr, c'est-à-dire que c'était une erreur terrible dans sa vie. Mal conseillé par certaines personnes,
il dira jamais, évidemment.
D'aller à Barcelone. En fait, il y avait le risque en disant on a perdu Griezmann pour le football. Non, on l'a récupéré pour le football. Et c'est une très bonne nouvelle pour le football espagnol, pour l'équipe de France aussi.
Et mon cher Polo, le Bayer Leverkusen se régale d'avoir attiré Amin Adli, qui a été buteur encore ce week-end. Enfin, pour la première fois d'ailleurs.
Enfin, ça fait quand même un an et demi qu'il est là. Il est plus remplaçant et remplaçant de luxe qu'autre chose. Il profite du fait, évidemment, que Schick n'est pas là et toujours blessé. Et donc, Leverkusen, quatrième victoire à la suite sous les ordres de Xabi Alonso, est en train de remonter au classement lentement mais sûrement. Et Adli a peut-être fait sa plus grande performance depuis qu'il est arrivé à Leverkusen, et Xabi Alonso croit encore à la qualification en Ligue des Champions, et j'aimerais bien voir sur le long terme ce que fait Adli, le français, qui sera sûrement titulaire la prochaine fois. Week-end prochain, il y a un certain Leverkusen Dortmund, je pense que ça va valoir le coup.
Alors je vais me permettre de donner un cours de basque de Langbad et Ousquela à Apollo, c'est Chabi.
Chabi, oui.
Voilà.
Comme le jeu.
Comme un chat, quoi.
Comme un chat, c'est Chabi.
Ou comme le jeu auquel on jouait quand on était petit.
Voilà. À ne pas confondre avec Chabi. Ouais,
honnêtement, j'ai jamais joué au Chabi, hein.
Je voulais pas le dire, Daniel, au moins il dit des choses.
De teubé,
très
ça,
franchement.
Même gamin, je croyais que c'était un truc de teubé, vrai. Ça.
Merci les gars, on s'est régalé. Fred Armel,
Julien, il a pas le droit de parler. Quoi.
Non, 50 secondes, il y a des matchs. Et le PSG qui joue ce soir, Daniel, c'est important quand même. Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
Pour une fois, c'est les Anglais qui n'ont pas tout.
Jeannot Séguier.
5 minutes de jeu en deuxième période. Bernat a remplacé Nuno Mendes. 4-0 toujours pour le Paris Saint-Germain. Normal, logique, face à une équipe de Régional 1 pour ce 16e de finale. Triplé de Kylian Mbappé. Ils ont tenu 28 minutes avant le premier but du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Ensuite, en 7 minutes, ils en ont pris 3.
C'est bouclé là, Jeannot, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je pense, oui, complètement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils ont mis 6 minutes à passer la ligne médiane en toute première période. Et là, ils ont réussi. Allez, je pense que si le PSG joue tranquille comme ils abordent la deuxième période, peut-être qu'ils peuvent être dangereux, mais je ne sais pas s'ils seront buteurs.
À tout à l'heure, Jeannot, pour la suite de ce match. 0-0 entre Fulham et Tottenham après 35 minutes de jeu. 0-0 entre l'Inter et Empoli. C'est la 53e entre Valence et Almeria en Serie A. Merci les gars. Gilbert Harry, pour le relais, Daniel Riolo également, Flo Gautreau. Bonne soirée à tous. L'after continue jusqu'à minuit.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.